Alors, on découvre dans un premier temps que ce qu'on t'a appris, ce que tu as commencé à redécouvrir par toi-même, d'autres s'en étaient saisis avant toi, largement, largement avant toi. Et donc, dans un premier temps, tu fais la redécouverte de ces éléments-là. Ensuite, tu dis, mais il faut donner une signification à ça. Donc, c'est quoi la signification qu'il peut y avoir dans cette espèce de combinaison de figures géométriques? Et là, d'un seul coup, l'aspect méditatif lié à ces formes, et en même temps aussi presque le langage lié à ces formes-là, le propos lié par ce langage, est tissé par ce langage, et est un propos qui est bien sûr voué à l'élévation, à l'idéal d'un être humain. Parce que on peut imaginer, bien sûr, le contexte politique dans lequel on a, ou économique dans lequel on a construit les cathédrales, par exemple. Mais il faut se dire que les mecs qui ont fait ça, ils ne les ont pas fait par hasard. Ils avaient un plan. Ce n'était pas simplement réaliser un beau projet architectural. Mais ce projet architectural était arc-bouté sur un idéal. Et je ne peux pas croire que ces gens-là l'aient fait par cynisme. Ils l'ont fait réellement. Parce que il voulait donner un outil spirituel à ceux qui allaient pouvoir y entrer dans ces cathédrales ou les voir de l'extérieur déjà. Et donc, ce propos d'un seul coup commence à éclairer ta. Alors, tous ces dessins hein, qui sont exposés, c'est des dessins que j'ai faits pour moi. C'est des recherches personnelles et qui, au fur et à mesure de mes découvertes, se sont étoffées. Et puis j'ai découvert que ben, les éléments qui avaient été utilisés pour les constructions de façades de cathédrales, eh ben, je les retrouvais dans les noces de Cana de Véronèse. Je les retrouvais dans la Seine. Et dernièrement, puisque j'en ai eu la provocation, on m'a dit, est-ce que tu serais capable de voir si la Joconde n'était pas. Et donc je me suis dit, bon, ben, je vais, ok, je vais analyser pour voir. Peut-être je vais rien trouver. Et en fait, si, j'ai trouvé. Trouver des choses qui sont incroyables. Et entre la Joconde et Notre-Dame de Paris, il n'y a pas de différence. Les mêmes éléments sont les éléments fondateurs de la construction. Et tu t'aperçois, quand tu es dessinateur de bande dessinée, que toute la construction, c'est la narration. C'est-à-dire que si tu fais de la bande dessinée, c'est pour diriger l'œil de ton lecteur par des formes. Et donc, en faisant ce travail, petit à petit, tu t'aperçois que la composition est l'élément fondamental. Alors bien sûr, on s'en rend compte d'une manière intuitive au début, mais cette même construction qui est celle qu'on ne remet plus en cause quand il s'agit de parler, mais la composition d'une phrase, que ce soit le subjonctif, que ce soit, c'est des compositions de mots, c'est une syntaxe, donc une composition. Et on les met bien sûr en sujet, verbe, complément au début, et puis on va vers des sophistications en sophistication, et ça devient de plus en plus riche. Et après, des romanciers vont apporter une couleur particulière qui sera la leur, mais au fond, c'est de la composition. Et bien, pareil en bande dessinée, la composition est une composition graphique, picturale, et donc. Comment je vais diriger mon œil? On est exactement dans la même configuration, dans le même état d'esprit de la composition d'une forme comme une forme de cathédrale où il faut imaginer que Léonard de Vinci, quand il lui passe la commande de la Seine, il doit se dire, mais comment je vais mettre tous ces 12 bonhommes? À l'intérieur de quoi je les mets? Quelle forme j'ai à ma disposition? Et donc, il faut imaginer qu'il y a une page blanche au début. Et comme il est initié à la géométrie par Luca Pacioli, et que Luca Pacioli, quand il vient voir la scène, il dit, mais c'est magnifique, ce que tu as fait là, c'est magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. Il a mis en application tout ce qu'il lui a appris. Tu vois? Et donc, il peut dire que ça. Et là, tu t'aperçois que l'utilisation de la perspective dans ce cadre, une utilisation théologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le point de fuite? Le point de fuite, c'est quand tu regardes dans une direction, tu regardes l'horizon et tu vas voir un point de fuite à l'horizon. Mais le point de fuite, il est déterminé par ton regard. C'est toi qui détermine à quel endroit va être le point de fuite. Tu changes ton angle de vision, le point de fuite a changé. Et donc, quand tu mets un point de fuite dans un tableau, tu dis au lecteur, c'est là où tu vas te projeter. Tu lui dis, c'est là où tu es. C'est là où, même, tu peux regarder les autres personnages, le personnage vers lequel naturellement tu vas aller, c'est lui. Et donc, il est en train de te projeter dans la figure du Christ. C'est par hasard, bien sûr qu'il l'a fait à dessein, c'est le cas de le dire.